Radio Okapi. Écho des développements.
Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine de l'environnement et développement durable sur Radio Okapi Écho du développement qui s'intéresse aux moyens de lutte contre les érosions en RDC. Cette émission vous est présentée par Tati Mapoukou avec la collaboration des Fiston Goma depuis la cité d'Ouvira au sud Kivu, Jean-Marc Matoua qui supervise et coordonne ces magazines et Jean-Claude Nsiala assure la prise des sons. Nous vous souhaitons une très bonne condition d'écoute de cette émission. Des têtes d'érosion menacent certains ouvrages d'intérêt communautaire dans beaucoup de villes de la République démocratique du Congo. Kinshasa compte à elle seule plus de 390 têtes d'érosion d'après les centres de recherche géologique et minière. Dans certains quartiers, les communautés locales et les pouvoirs publics assistent impuissamment à l'avancée de ces têtes d'érosion. Quels sont les facteurs à la base de la prolifération de ces têtes d'érosion? Quels sont les moyens efficaces des luttes contre ces ravins? Quel doit être l'apport des pouvoirs publics et de la communauté locale dans la lutte contre ces ravins qui ne cessent de causer des dégâts matériels importants et parfois même des pertes en vies humaines? Ce sont là les quelques questions qui sont au centre de ces numéros d'écho pour le développement. Quelle est la situation à Ouvira au sud Kivu? Francine Mwangaza Sadiki, chef des services de l'environnement du territoire d'Ouvira, nous donne un aperçu de la situation sur terrain et propose quelques pistes des solutions des luttes anti-érosives dans la cité d'Ouvira.
La problématique de l'environnement ici chez nous en territoire d'Ouvira est due à différentes érosions qu'on est en train de constater par-ci par-là. J'interpelle d'abord la conscience de tout et chacun parce que notre population a tendance de croire que la gestion de l'environnement c'est l'affaire d'une seule personne alors que tout le monde doit s'impliquer. Les habitants d'Ouvira, ils doivent d'abord cesser de couper les arbres ou d'abattre les arbres illicitement, ça pour autant les reboiser. Et après, ils doivent savoir gérer leurs ordures ménagères et savoir aussi bien gérer le sachet ou le déchet plastique. Parce que ces déchets sont non biodégradables. Par rapport aux constructions anarchiques, j'interpelle encore la population. Il faudrait qu'avant de procéder à toute construction, de passer d'abord aux services compétents comme l'environnement pour qu'on fasse d'abord des études d'impact environnemental pour voir si l'endroit où ils vont construire leur maison est vraiment habitable ou elle est non habitable.
En des termes beaucoup plus simples, l'érosion est un ensemble des processus qui se manifeste par diverses formes et aspects sur les sols. Les ravins en crevasse, elle, est plus répandue à Kinshasa. Ce type d'érosion se développe sur les versants des fortes pentes de certains quartiers. Mais tous les ravins ne présentent pas la même morphologie, d'après Sambiedi Paul, expert en aménagement du territoire. Après le déclenchement du phénomène, l'incision qui en résulte acquiert des caractéristiques spécifiques en fonction de l'environnement, de la pente, de la composition du sol et des ruissellements des eaux.
Érosion, ce sont des ravins, en fait, qui se sont creusés dans le sol, dans l'étendue de territoire, sous l'effet de l'eau, donc sous l'effet de l'eau de ruissellement. Ça, c'est une définition basique et je pourrais encore la monnayer pour dire que l'érosion, en fait, ce sont les faits béants de notre destruction de notre milieu qui est donc à l'origine de beaucoup de problèmes et de risques environnementaux, de dégâts environnementaux et même de morts partout dans le monde. C'est un problème qui était d'abord à aborder dans les zones agricoles, mais de plus en plus, c'est devenu un problème urbain et périurbain. Parce que de plus en plus, nous devenons nombreux, nous demandons de l'espace, et parce qu'on n'arrive pas à accompagner ces installations, ces implantations urbaines et périurbaines, nous nous installons de façon anarchique, ce qui est constatable dans la ville de Kinshasa, par exemple. Et ce qui fait que il n'y a pas un accompagnement dans ces installations comme le cadastre, il n'y a pas
l'urbanisme
comme la mise en place de caniveaux, ce qui fait que l'eau donc de ruissellement n'est pas bien orientée et crée donc de grands trous, de grands ravins suite à des érosions, à l'emportement de grandes masses de sol.
Dans vos investigations, quel est le constat que vous avez fait sur terrain dans les communes périurbaines de la ville de Kinshasa?
Oui, les constats sont malheureusement tristes quand on doit penser aux problèmes spécifiques de ravins. Et en fait, c'est un problème qui entre dans un problème plus général que j'appelle déséquilibre environnemental. En fait, dans ces communes périurbaines, pour la plupart, nous sommes dans un déséquilibre environnemental où il y a une chaîne de problèmes qui s'entremêlent, dont les érosions. Et ces érosions, en fait, pour la plupart, s'installent sur le chemin de l'eau. Pour me faire clair, quand nous prenons un ravin, on se rendra compte que quand on essaie de modéliser le bassin versant dans lequel il s'insère, on verra que le ravin s'installe sur le sillon principal du bassin hydrologique. Et tout ça, c'est lié au fait que on ne contrôle pas en amont donc le ruissellement. Et très souvent, au niveau d'un ravin, quand je parle de bassin versant, on peut constater un continuum, plateau, flanc et plaine. Ce qui fait que quand en haut, au plateau, l'eau n'est pas bien gérée, l'eau, bien que passant par son chemin, est en grande masse, en grande vitesse, vient enlever donc une grande partie de grande masse de sol et crée un ravin. Et voilà, il y a des dégâts en amont parce que ces eaux-là, puisque les gens s'installent aussi au bord des rivières, aux berges des rivières, il y a en même temps un enchaînement avec les inondations.
La ville de Kinshasa est frappée par ces fléaux de manière spectaculaire et grave. On parle de quelques 390 têtes des ravins qui entaillent ces communes dont Selembaou et Kisenso. Pour lutter contre ces érosions, parfois la population utilise des méthodes peu recommandables qui contribuent à la pollution de l'environnement, d'après l'ingénieur Guy Bungubechi, président du conseil d'administration d'Agir Alternatif.
Nous pouvons dire que la lutte anti-érosive est d'abord une question de prévention. Regardez le relief de Kinshasa. Toutes les communes concernées par le phénomène d'érosion sont des communes qui ont des pentes. Il y a des collines et il y a des vallées.
Dans les zones collinaires, comme on dit.
Exactement. Et le sol de Kinshasa, pour ceux qui le savent, est un résidu de sol qui avait constitué auparavant le lit d'une sorte de lac intérieur. Et pour l'essentiel, un sol sablonneux, ou parfois argileux. C'est un sol qui n'est pas très résistant au phénomène d'érosion.
Un sol très fragile par rapport au phénomène d'érosion.
Vraiment vulnérable. Un tel sol, sur un tel sol, il ne faut pas laisser au ravin l'occasion de naître et de se développer. Cela signifie donc que le phénomène de lutte anti-érosive, pour être contré, doit être considéré auparavant dans son aspect de lutte préventive. Et là, il n'y a que l'État qui doit prendre des dispositions lors des lotissements de nouveaux terrains, dans l'installation et la gestion des équipements de gestion de eaux de ruissellement. Alors, quand l'État ne prend pas le devant, ben, les citoyens, les individus, se protègent chacun dans sa parcelle, ce qui pour une lutte face à un phénomène d'érosion est tout à fait illusoire.
Mais nous voyons ici dans des ménages, lorsqu'il y a déclaration de têtes d'érosion, dans les quartiers, on s'organise pour aller déverser les immondices, tout ce qui est déchet dans ces ravins qui est en train de se développer. N'est-ce pas que c'est une bonne méthode pour la population locale parce qu'elle n'a pas de moyens pour contraindre l'avancée de ces têtes d'érosion?
On pourrait le dire, parce que cette façon de faire montre son efficacité. aussitôt qu'on a comblé une tête d'érosion avec quelques bennes d'immondices, eh bien, l'avancement de l'érosion est stoppé net. Ok ? Très bien. Mais quel est l'impact sur le plan écologique ? Je connais des quartiers aujourd'hui où quand le vent souffle dans une certaine direction et pas sur un site érosif qui a été ainsi comblé par un déversement d'immondices ou du papa jusqu'au dernier des enfants, chacun a un masque sur son visage pour essayer de respirer normalement. Ce n'est plus normal.
Ça fait déjà la pollution de l'air.
Exactement. Et c'est une protection plutôt illusoire. Ces odeurs nauséabondes signifient en fait une putréfaction, une décomposition des matières végétales et d'autres qui est due par le fait des micro-organismes. Et il y a là également, et ces micro-organismes peuvent causer toutes sortes de maladies. En dehors de cela, il y a aussi le fait que dans ces immondices qu'on jette, il y a des matières, il y a des molécules qui peuvent causer la contamination d'abord des eaux de ruissellement, et puisque ces eaux vont inéluctablement dans le fond des vallées, ça cause donc le ruissellement des rivières, des ruisseaux d'abord, ensuite des rivières. Or, nous savons à quel point ces rivières sont importantes pour la population de Kinshasa. C'est là donc des sources d'infection, des sources de contamination,
prolifération des épidémies,
qui peuvent durer longtemps encore. C'est un risque terrible pour la population. Pas seulement un risque, mais c'est un danger réel qui est déjà là.
Vous êtes en train de suivre le magazine Écho du Développement sur Radio Capi. Nous abordons un sujet sur les méthodes de lutte contre les érosions en RDC. À part la canalisation des eaux des ruissellements par la construction des caniveaux, des digues et autres égouts de canalisation des eaux vers les rivières, la plantation de certaines espèces d'arbres qui soutiennent les sols dans des sites collinaires est aussi une solution efficace contre l'avancée des têtes d'érosion. Cette approche est en cours d'expérimentation dans des endroits menacés par les érosions à l'université de Kinshasa et ses environs, indique le professeur Matemouerou Jean-Pierre, secrétaire général académique de l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux et Raif Tansigle.
On est conscient aussi que le site de campus là est érosif, comme vous avez dit là. Et dans, là où il y a des têtes d'érosion, on a identifié des arbres, des forêts, avec des appâtements, des racines palettes, qu'on essaie d'implanter au niveau des têtes d'érosion. L'idée est que c'est quand ces arbres vont monter, avec des racines comme ça, ils vont essayer progressivement de réduire un peu ces érosions-là, tout ça. Et on a aussi mis certaines plantes herbacées aussi, dans le but d'arrêter les têtes d'érosion. C'est-à-dire qu'on a fait un effort, non seulement mettre les arbres avec les cultures, mais aussi au niveau des têtes érosives, essayer de mettre des arbres qui, à la longue, ils vont jouer un rôle important pour réduire l'érosion. Bon, ce n'est pas d'ici qu'au tec, hein. L'arbre doit monter, faire des racines, des appâtements, ensuite commencer à bloquer l'érosion là. On est conscient de ça. Et ces arbres-là, en montant, comme on le sait, ils captent les gaz, ils contribuent beaucoup à l'atténuation du changement climatique. Bon, c'est un projet, non seulement ça, et puis au finish, cet environnement forestier constitue pour les Raïfs un matériel didactique. Pour les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont jamais vu les forêts, qui ne connaissent pas les arbres forestiers. Bientôt ici, dans 5 ans, quand vous allez passer à l'Eraïf ici, vous allez voir qu'il y aura toute une forêt ici, avec des essences de nos forêts, et ça constituera vraiment un outil important pour la formation des étudiants. Ça dit, on est à l'heure actuelle, comme ça fait environ 5 ans qu'on va commencer, on ne voit pas encore les effets, mais d'ici 5 ans, si vous passez ici, vous allez voir un autre environnement avec des effets vraiment. Bon, ça, ce n'est pas l'unique solution. Hein? Parce que quand la tête d'érosion est déjà très grande là-bas, les arbres sont inefficaces. Il faut qu'on se le dise. Hein? Mais nous, ce qu'on peut faire d'abord, c'est avec les arbres. Hein? Bon, l'État aussi, l'IDIKIN, peut aussi chercher d'autres moyens pour essayer de contribuer à lutter contre ces érosions-là.
La lutte anti-érosive par la plantation des vétivers a fait aussi ses preuves dans certains sites menacés par les érosions, ici à Kinshasa et devant l'hôpital général de référence de Kikwit, témoigne l'ingénieur Guy Bungubeki, président du conseil d'administration de l'ONG Agir Alternatif, qui initie des projets de lutte anti-érosive à l'aide des vétivers.
Oui, la première des choses qu'il faut souligner, c'est que la technologie du vétiver pour la lutte anti-érosive a été amenée ici en RDC par l'ONG IREM, c'est une ONG américaine, en 2005. Et nous avons été parmi les premiers bénéficiaires du transfert de cette technologie. Et la première des choses que nous avons faites dans le cadre de ce transfert de technologie, c'était une expérience pilote à Kinshasa, où, à Kikwit, dans la ville de Kikwit, où nous sommes intervenus dans une zone érosive très importante, en fait un ravin qui menaçait directement l'hôpital général de Kikwit. En dehors de cette action pilote qui nous a permis de maîtriser la technologie, nous sommes intervenus dans la formation des cadres et d'une équipe d'ouvriers, d'abord de CEP Congo, qui utilise donc cette technologie dans la protection de ces pipelines sur la ligne allant de Ango-Ango à Matadi jusqu'à Kinshasa. Et là également, nous avons mené des actions pilotes qui ont été donc dans le cadre de la formation pratique de ce transfert de technologie que nous avons effectué avec CEP Congo. Nous avons aussi travaillé avec la SNEL, et là nous avons également formé et des cadres pour la planification, la conception, le programme de lutte anti-érosive, mais aussi avec des ouvriers pour qu'ils maîtrisent la pratique de cette lutte anti-érosive. Et la SNEL également peut être considérée comme une des entreprises qui maintenant a acquis cette technologie. En plus de cela, nous avons travaillé avec Caritas, mais également avec Vision Mondiale, pour des actions pilotes dans la ville de Kinshasa, notamment dans les communes de Njili et dans les communes de Njili et de Kimbanseke. Mais nous avons eu également, à travers nos membres qui ont été utilisés comme consultants ou comme personnes ayant signé des contrats à durée déterminée, dans des entreprises de construction de routes. Ainsi, à travers ces personnes, nous sommes intervenus dans la protection des routes pour la stabilisation soit des déblais, soit des remblais, le long de la route nationale numéro 1, mais également le long de plusieurs routes à travers les provinces orientales et d'autres encore. Voilà en gros ce que nous avons fait. Mais nous avons fait bien plus que ça. Nous avons également proposé à des résidents des différents quartiers particulièrement menacés par le phénomène d'érosion, nous leur avons proposé nos interventions, dans le sens des transferts des technologies pour que ces gens soient capables de se prendre en charge pour protéger leur habitation, leur avenue, leur quartier, par le système de vétiver pour la lutte anti-érosive. Le premier qui devrait vraiment s'impliquer, qui devrait vraiment se réveiller et se rendre compte qu'il a là un rôle à jouer et qui ne joue pas encore suffisamment, ou pour ne pas le dire pas du tout, c'est l'État. C'est l'État à travers ses différents services qui sont concernés par la lutte anti-érosive. De sorte que on puisse mener des luttes préventives, la contention des eaux au niveau de chaque parcelle, de chaque maison, de chaque avenue. Et enfin, stopper les ravins qui naissent par des méthodes préventives.
Il y en a plein. Ça, je le vois dans des parcelles à Mongafula, il y a toujours des bassins, des rétentions d'eau, nous voyons tout ça. Il y a des gens qui le font dans leurs parcelles.
Quand c'est fait de manière isolée, je suis désolé, ça n'a pas beaucoup d'effet. Ce n'est pas très important. Il faut que cela soit dans un quartier, une commune qui est exposée au phénomène d'érosion, que cela fasse partie d'une planification collective et dont les leaders, je reviens sur cela, devraient être l'État. Eh bien, quand l'État ne le fait pas, les communautés peuvent également s'organiser. Mais non pas s'organiser de sorte que chacun essaie de mener cette lutte-là chez lui, dans sa parcelle, dans sa maison, mais plutôt que la communauté s'organise de manière à installer un système de lutte collective. À ce moment-là, nous pouvons prévenir la création de nouveaux ravins, et nous pouvons également mener une lutte plus efficace. Il y a moyen quand même d'effectuer des levées de fonds, soit au niveau des quartiers, soit au niveau d'organismes qui sont là pour ça, ou même de l'État. Quand il y a un lobbying assez efficace, on peut arriver à le faire également au niveau des quartiers en ce qui concerne la lutte pour arrêter les ravins qui sont déjà développés et en progression. Parce que pour cette seconde phase, contrairement à la phase préventive, cela nécessite de gros moyens qui, en général, ne sont pas à la portée des communautés locales.
Pour lutter contre les érosions, certaines ONG ont construit des digues dans quelques sites exposés au développement des ravins. On encourage également la construction des bassins de rétention d'eau dans chaque parcelle afin de réduire les ruissellements sauvages des eaux. Mais ces techniques ne sont pas très durables en termes de lutte contre les érosions, d'après le chercheur Sambieni Paul. Il propose plutôt de lutter contre les érosions avec l'approche des paysages. Elle consiste à lutter contre les érosions avec les espèces végétales du milieu.
Il y a beaucoup de techniques qui sont faites, il y a du génie local qu'il faut reconnaître, qui a été introduit par des ONG, beaucoup d'interventions. Et ce qu'on observe, ce sont les immondices. Donc les techniques comme on met des immondices, des jets d'ordures au niveau des têtes de ravin, on peut faire des digues en tête de ravin pour contrer le décapement et l'enlèvement de grandes masses. Mais ces techniques à la longue ne sont pas très durables parce qu'en fait c'est des réponses ponctuelles qui durent juste quelques temps, peut-être le temps de la saison. Et après, il faut réinvestir encore, réinvestir pour pouvoir gérer le problème. Et en tout cas, il y a du génie local, mais je pense qu'il faut plus orienter les interventions dans une approche que j'appelle l'approche de paysage. Et c'est ça que je défends dans ma thèse à travers les systèmes verts.
En quoi elle consiste, cette approche du paysage?
Oui. Comme je venais de l'expliquer, vous verrez que les techniques mises en place sont des techniques ponctuelles, sont des techniques qui demandent beaucoup de coûts, beaucoup d'argent, même parfois beaucoup de personnel. Et on peut avoir même parfois des zones où on met du béton pour contrer le problème d'érosion. Donc, on vise le remblayage du ravin, on veut qu'il s'arrête tout de suite, alors que c'est un problème donc de longue haleine en réalité. Puisque nous sommes dans un... Donc, tous ces problèmes-là, on constatera que ce sont toutes ces approches sont des approches contre nature, je vais dire, sont des approches défensives vis-à-vis de la nature. Alors, je pense que il faut que on pense à une approche de composition avec la nature.
Faire avec la nature, d'agir selon l'environnement, les milieux.
Oui, d'agir avec les conditions et les ressources naturelles du milieu et aussi les ressources humaines, parce que je viens de parler du génie végétal. Et donc, quand je parle d'approche du paysage, c'est d'aborder le problème dans sa globalité. Par rapport aux ravins, je venais de l'expliquer, les ravins sont pour la plupart installés dans un bassin versant où on a un continuum de plateaux, de flancs et en aval de plaines. Et toute une série de problèmes, ruissellement, pollution, érosion, inondation. Alors dans une approche de paysage, il faut déjà en amont, c'est déjà au plateau, travailler à réduire le ruissellement. Mais il y a des faits sur lesquels il faut partir. C'est que les gens sont déjà installés anarchiquement. Les recherches et même beaucoup de choses ont montré que déplacer les gens, ce n'est pas toujours la bonne solution. Les populations qui sont déjà là sont pauvres pour la plupart. Et l'État est parfois dépassé, n'a pas nécessairement les fonds pour pouvoir réarranger tout ce que nous avons nous-mêmes fait. Alors il faut aller par des techniques simples. Il faut aller par des ressources, les ressources locales, naturelles, humaines. Et c'est ça que défend l'approche du paysage. Parce que quand nous prenons les communes périurbaines comme Tselemba ou Kisenso que je viens de citer, elles apparaissent comme des forêts à vue, donc à vue de loin ou à vue aérienne. Et on a même l'impression que ce ne sont pas des zones habitées. Mais quand on y va, on voit qu'il y a de l'habitation. Cette image de forêt vient de la végétation et des arbres privés pour la plupart, des parcelles. Et donc, malgré ça, il y a quand même des problèmes. Ça veut dire que le couvert qui est là n'est pas bien organisé. Et donc, dans une approche du paysage, il faut partir donc, de ces pratiques d'aménagement végétal-là, l'organiser déjà en amont pour pouvoir créer un système qui peut répondre donc au problème de réduire la masse et la vitesse de ruissellement. Et donc c'est ça que j'essaie de faire dans ma thèse quand j'institue ma thèse comme dynamique du paysage de Kinshasa sous la pression de la périurbanisation, système vert comme moteur d'aménagement. Et dans cette approche, au niveau du flanc, le ravin qui est aujourd'hui une zone vue comme une zone de sorcellerie, une zone de danger, lorsque le ruissellement est réduit, pourra être réaménagé aussi avec de la végétation, toujours, pour en faire une zone d'opportunité. On peut même, à la longue, faire des zones de forêt, faire des zones de réserve de carbone urbain, et faire des zones de divertissement, faire des zones touristiques qui peuvent apporter même des ressources à la commune et un lieu de contemplation, un lieu de bien-être pour les populations. Et en même temps, on réfléchit aux zones en aval parce que les gens se sont installés au niveau du lit de l'eau, au niveau de la berge des rivières. À mon avis, en ce moment, il faut encore travailler pour créer un accompagnement végétal. Et c'était même ça, je crois, à l'époque des colons. J'ai fait des enquêtes où les gens regrettent que, par exemple, le long de la rivière Ndjili, il y avait tout un accompagnement végétal qui faisait de ces lieux des lieux pittoresques et qui sont aujourd'hui des zones répugnantes, des zones de danger, des zones inhabitables, mais habitées quand même.
C'est par ici que s'achève le magazine Écho du développement consacré aux méthodes de lutte contre les érosions en RDC. Tati Mapoukou était à la présentation avec la collaboration des Fiston Goma de Radio Kapi Uvira. Jean-Marc Matois qui a coordonné et supervisé cette émission. Jean-Claude Siala a assuré la prise de son. À bientôt.